France Culture.
La rédaction de votre journal, Marie-Hélène Duvigneau, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Alors que Donald Trump évoque ouvertement un renversement du pouvoir en Iran, le fils de l'ancien Shah, Reza Pahlavi, se pose en garant d'une transition démocratique. Il participait hier à la conférence sur la sécurité à Munich. Et puis un homme condamné hier soir à Lyon à 25 ans de prison pour le meurtre de son ex-conjointe. La perpétuité avait été requise contre l'accusé, déjà condamné pour violence sur une autre ex-compagne. L'Ukraine, la dépendance de l'Europe envers les États-Unis, des sujets au cœur de la conférence sur la sécurité à Munich. Mais hier, il a aussi beaucoup été question de l'Iran. Alors que Donald Trump parle désormais d'un renversement du pouvoir et annonce qu'un deuxième porte-avions sera bientôt déployé dans le Golfe, le fils exilé de l'ancien Shah, Reza Pahlavi, s'est posé hier en Bavière en garant d'une transition démocratique et a détaillé son programme en 4 points. Reza Pahlavi.
Le premier est l'intégrité territoriale de l'Iran. C'est une question très importante pour de nombreux Iraniens. Deuxièmement, il y a la nécessité évidente de séparer l'Église de l'État, condition sine qua non de la démocratie. Le troisième est l'égalité de tous les citoyens devant la loi et les libertés individuelles. Et le quatrième est le droit du peuple iranien de déterminer son propre avenir, ce qui est exactement le programme du gouvernement de transition qui vise à faire en sorte que les Iraniens soient en mesure d'élire leurs représentants à l'Assemblée constitutionnelle, pour finalement aboutir à une constitution ratifiée, approuvée par la nation. Ensuite, nous aurons les élections du premier parlement et du premier gouvernement de cette future démocratie. Que ce soit une république ou une monarchie constitutionnelle, c'est au peuple de décider.
Reza Pahlavi, le fils de l'ancien Shah d'Iran, qui appelle à une mobilisation mondiale aujourd'hui contre le régime iranien. Nous y reviendrons avec l'invité du journal de midi et demi, Thierry Coville, chercheur à l'IRIS. La mort hier soir d'un homme abattu par un gendarme pour avoir tenté d'agresser au couteau un militaire sous l'Arc de Triomphe à Paris. Le parquet national antiterroriste a ouvert une enquête. Déjà condamné pour terrorisme en 2013 en Belgique, l'assaillant était sorti de prison en décembre dernier. Un jeune proche du collectif d'extrême droite identitaire Némésis dans un état désespéré à Lyon. Le collectif et le RN accusent des militants antifascistes de l'avoir tabassé en marge d'une manifestation du collectif contre la tenue à Sciences Po Lyon d'une conférence de l'eurodéputée insoumise Rima Hassan. Le parquet de Lyon a ouvert une enquête pour violence aggravée. 25 ans de prison pour avoir tué son ex-conjointe devant 3 de leurs enfants en mai 2022. Le verdict est tombé hier soir dans le féminicide de Grézieux-la-Varenne, près de Lyon, en mai 2022. La perpétuité avait été requise et les proches de la victime n'ont pas caché leur désapprobation, Mathilde Lamberti.
C'est honteux, dit sa mère. C'est cadeau, renchérit un proche de Nathalie Ducrot, morte sous les yeux de 3 de ses enfants, 54 coups portés. Elle qui avait déposé plainte 3 fois contre son compagnon dont elle se séparait. Il avait interdiction de l'approcher et la menaçait de mort. 25 ans de réclusion donc finalement prononcés. Les mots de la défense ont porté. La perpétuité est injustifiée et ne réparera rien, avait plaidé maître Florence Vincent.
Je pense qu'on a tenu compte de sa personnalité, aussi de son âge, des efforts de vérité qu'il a quand même pu montrer durant les débats. La Cour a su faire, je crois, la part des choses et rendre une décision effectivement plus mesurée que n'étaient les réquisitions du parquet général qui étaient très sévères.
Les réquisitions évoquaient un meurtre typique des féminicides, tuer sa compagne pour se la réapproprier définitivement. L'avocate générale déplorant le manque de remise en cause de l'accusé pour la sœur de Nathalie, Marlène Ducrot. Le verdict n'est définitivement pas à la hauteur.
Je suis très déçue, encore une fois, la justice, elle n'a pas sauvé ma sœur avant. Et en fait, là, pour moi, elle ne fait pas son boulot. Quand on voit tout ce qu'il lui a fait, comment il l'a égorgé, tout ce qu'elle a subi en fait. Là, il y avait quand même ses enfants devant, enfin, tout ce qu'il y avait dans le dossier, ça méritait la perpétuité, oui.
Selon l'avocate de la famille, le meurtrier aurait dû être incarcéré dès lors qu'il ne respectait pas le contrôle judiciaire et vu son profil, c'était un féminicide annoncé.
Les victoires de la musique. Théodora en a raflé 4 hier soir, dont celle du meilleur album. La québécoise Charlotte Cardin a été sacrée artiste féminine de l'année, artiste masculin pour le rapport d'Isis. Et puis, à 91 ans, Nana Mouskouri s'est vue remettre une victoire d'honneur. Le temps aujourd'hui pluvieux de l'Auvergne aux frontières de l'Est et sur les Pyrénées. Belles éclaircies sur le reste du pays, mais après les fortes pluies de ces derniers jours et la violente tempête Nils, la Gironde et le Lot-et-Garonne restent en vigilance rouge aux crues. 13 autres départements de l'Ariège au Morbihan, en passant par les Deux-Sèvres, sont en vigilance orange. Les températures au meilleur de la journée en baisse, 3 à 8 degrés au nord, 6 à 15 au sud. France Culture 7h05, les matins du samedi. C'est avec vous, Nicolas Herbeau.
Oui, merci beaucoup, Marie-Hélène Duvigneau. J'étais en train de réfléchir si je vous remettais une victoire de quelque chose. Je vais y réfléchir.
On en reparle.
Vous revenez à 7h30?
Absolument.
Avec un grand plaisir. Merci beaucoup, Marie-Hélène Duvigneau. Voici le programme de cette matinée. Dans quelques minutes, l'invité de la transition de la semaine nous explique ce que nos commentaires postés sur Internet disent de nous. À 7h24, Récit d'enquête et Matteo Caranta qui nous raconte comment une entreprise de l'agroalimentaire française fournit l'armée russe en matériel militaire. Et puis dans 30 minutes, notre discussion ce matin sur ce que Romain Huret appelle les oubliés de la Saint-Valentin. Et oui, nous sommes le 14 février. Dans un essai passionnant, l'historien décrit le regard que la société du XXe siècle porte sur les célibataires aux États-Unis entre assignation et discrimination. Ils doivent faire face à l'ordre matrimonial qui les rejette. Qu'en est-il également aujourd'hui en France? Nous serons également avec le sociologue Milan Boucher-Valla pour ouvrir cette discussion. Vous avez donc le programme. Il est 7h06 sur France Culture. Bon réveil. Et direction la Chine pour débuter cette heure avec le reportage de la rédaction consacré à la lutte anti-pollution qui provoque la colère des populations rurales. Depuis 2017, dans les campagnes, le gaz a lentement remplacé les traditionnels poêles à charbon pour chauffer les maisons. Un bouleversement imposé par les autorités pour atteindre les objectifs environnementaux du premier pollueur de la planète. Ce passage du charbon au gaz était au départ accompagné de subventions diminuées, voire supprimées par endroits. Sébastien Berriot, vous êtes notre correspondant en Chine, certains habitants se retrouvent incapables de payer leurs factures de gaz et leurs conditions de vie deviennent éprouvantes.
La province du Hebei, aux portes de Pékin, est avec ses nombreuses usines l'une des régions les plus polluées de Chine. Mais ce matin, dans le petit village de Moqing, à 70 km de la capitale, le ciel est d'un bleu éclatant. Aucune trace de pollution, mais le froid est glacial, moins 10 degrés. Et ici, c'est un sujet très sensible. Depuis que le village de 2000 habitants a été contraint de passer au gaz en 2017, les habitants ont dû abandonner leur poêle à charbon. Le gaz est beaucoup plus cher et cette année, les aides financières du gouvernement ont très fortement diminué. Alors dans les maisons, il fait très froid. Cette grand-mère de 72 ans nous propose de visiter son habitation, une maison d'une petite dizaine de pièces.
Là, c'est ma chambre. Vous voyez, le chauffage n'est pas allumé. Tout simplement parce que le gaz coûte très cher, nous n'en avons pas les moyens. Nous sommes agriculteurs et ne gagnons pas beaucoup. La nuit, plusieurs couvertures s'empilent sur moi. Elles sont si lourdes que parfois, je ne peux même pas me retourner. Le jour, je porte un gilet en coton en dessous avec une veste, soit 4 couches au total. Après avoir travaillé dur toute l'année, nos maisons deviennent insupportablement froides en hiver. Nous espérons que le gouvernement nous accordera davantage de subventions. Aujourd'hui, le ciel est bleu, mais nous devons supporter le froid.
Même chose dans la cuisine et dans le salon, où ce matin, il ne doit pas faire plus de 9 degrés. Juste derrière, il y a un petit bureau où une adolescente est en train de travailler. Et là, on sent la chaleur. La grand-mère nous présente sa petite fille de 15 ans.
Seul le radiateur de cette pièce est chaud. Comme ma petite fille doit étudier, je crains qu'elle ait froid pendant qu'elle fait ses devoirs. Quand elle sort, j'éteins le chauffage. Je le rallume quand elle revient, parce que si la pièce est froide, ses mains sont froides et elle ne peut pas faire ses devoirs.
À l'extérieur, un petit groupe d'habitants s'est rassemblé devant la maison pour profiter du soleil. Tout le monde a le même discours. On regrette presque ici le smog hivernal qui recouvrait jadis le village à cause des nombreux poêles à charbon.
Au départ, la subvention était plus élevée à 110 euros, mais elle est passée à 24 euros. Pour la protection de l'environnement, c'est vrai que brûler du charbon, ça pollue l'air. Mais si l'État nous autorisait à l'utiliser à nouveau, nous le ferions tous volontiers, car ça nous permettrait d'économiser la moitié des coûts.
J'ai rechargé mon compteur de gaz de 185 euros, mais il est déjà à nouveau vide après seulement quelques jours. Si je laissais le chauffage allumé en permanence, cela me coûterait trop cher.
Et pas question de tenter de brûler discrètement du charbon. Les autorités surveillent de très près toute trace de fumée qui pourrait s'échapper des maisons. Ce père de famille comme les autres, n'a pas le choix.
Le charbon est strictement interdit. Il y a des inspections. Tout ce qui me restait a été confisqué et j'ai reçu un remboursement.
Au début de l'année, pour la première fois, le quotidien hivernal des habitants du Rebeil a envahi les réseaux sociaux après la parution d'un article dans un journal chinois. Le reportage a rapidement été censuré et pour calmer la colère des paysans, les autorités ont décidé de réintroduire des subventions sur le gaz. Mais la grand-mère qui nous avait fait visiter sa maison a décidé de maintenir ses radiateurs coupés pour le moment. Le gaz imposé par le pouvoir chinois au nom de la lutte anti-pollution demeure au-dessus de ses moyens.
Sébastien Berrieux, notre correspondant en Chine pour le reportage de la rédaction. Vous écoutez France Culture, il est 7h10. Place à la transition de la semaine.
7h-9h, les matins du samedi. Nicolas Herbeau.
Alors que dans les années 60, avec l'avènement des médias de masse, l'artiste Andy Warhol prédisait à chacun son quart d'heure de gloire ou de célébrité. Internet a fait encore mieux, il a offert à chacun et chacune d'entre nous la possibilité de tout commenter, et ce, à l'infini. Un discours politique mis en ligne sur YouTube, une fourchette vendue sur Amazon, un restaurant recommandé sur TripAdvisor ou un dentiste référencé sur Google. Bien que souvent méprisé, cette pratique offre pourtant un corpus extrêmement riche de contributions écrites émanant de toutes les sphères de la société. Mara Goyer, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur France Culture. Vous êtes essayiste, enseignante au collège et vous explorez dans votre dernier ouvrage cette mine de textes bruts, la civilisation du commentaire, portrait de la vie en glose, apparu chez Gallimard. Ma première question, elle est simple. Pourquoi est-ce qu'on commente absolument tout sur Internet?
Alors, il y a les raisons les plus connues et les plus avancées, souvent, c'est on méprise ça, on dit voilà, les gens sont aigris, ils sont seuls, ils s'emmerdent, ils ont besoin de se venger, ils sont en plein ressentiment, donc ça, c'est ce qui est dit communément, et ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'il y a bien d'autres raisons de commenter. Il y a celle de vouloir laisser une trace dans ce monde sur Internet, comme avant on gravait ses initiales sur un arbre, maintenant on laisse un commentaire. Il y a peut-être aussi le besoin de coopérer, de dire voilà, attention, ce dentiste est dangereux, cette machine à café est formidable et cette clé à molette est douteuse. Enfin voilà, il y a un échange. Il y a aussi l'envie, de sublimer notre monde, notre quotidien, nos achats compulsifs en transformant des biens qu'on possède en ligne d'écriture.
On va rentrer dans le détail de toutes ces raisons, mais d'abord, peut-être, est-ce que c'est l'idée de partager, de donner un avis en ligne, est-ce que c'est un progrès? Est-ce que c'est un progrès démocratique, si on utilise ce grand terme, de donner cette parole, en quelque sorte, même si ce sont des écrits?
Alors, d'abord, c'est tout à fait un signe de l'âge démocratique, de toute évidence, parce que c'est le repli sur la sphère privée, la fin des liens traditionnels, et puis, le fait que les gens sachent écrire, c'est quand même pas rien, et que les gens écrivent, on devrait s'en réjouir. Ensuite, est-ce que c'est un progrès? J'ai tendance à penser que c'est un progrès, puisque tout le monde écrit, on devrait être très content, tout le monde déplore la fin de la lecture, la fin de l'écriture. Alors, c'est peut-être pas le plus beau style, c'est pas du Balzac, certes, mais les gens écrivent, on devrait être content. Ensuite, que chacun puisse donner son avis, c'est quand même important dans une société démocratique, même si ça vire souvent, ça je l'élude pas, au grand n'importe quoi, à la cacophonie et à la violence. Mais même la question, on se demande, c'est comme si on se demandait, est-ce que le droit de vote est un progrès? Quand on voit le populisme, les extrêmes, est-ce que c'est un progrès? Ben oui, voilà.
Ça, il n'y a pas de doute, et vous le montrez bien, effectivement. Alors, commenter, vous l'avez dit, c'est créer du commun, partager une expérience, échanger aussi avec le plus grand nombre, et vous prenez cet exemple qui m'a un petit peu amusé, il faut bien le dire, cette tentative infructueuse de réparer une machine à laver, avec une vidéo YouTube, ce qu'on appelle un tutoriel, c'est-à-dire quelqu'un qui explique comment il a fait et qui partage, mais pour vous aider en fait.
Mais moi j'étais extrêmement heureuse au début de regarder cette vidéo. Après j'ai découvert que le joint du hublot du sèche-linge était une question qui allait m'échapper définitivement et que j'ai tué ma machine à laver en suivant les consignes données. Mais il n'empêche que on a ce tutoriel et pour une question pratique qui concerne absolument tout le monde et on est très démunis face à ce genre de questions qui ne sont pas dérisoire du tout. Et on voit ensuite un échange, des gens qui disent « Ah, merci », d'autres « Faites pas semblant que c'est facile », l'un dit « Oui, mais ma grand-mère avait une machine à laver », l'autre dit « C'est quand même beau, un hublot, ça rappelle la mer ». Enfin, c'est formidable, quoi. Les échanges qui sont complètement désorganisés et qui sont pas vraiment des dialogues sous une vidéo de réparation de lave-linge, c'est quand même quelque chose qui aide à la fois à réparer ou à assassiner son lave-linge et à prendre conscience qu'on n'y arrivera pas et puis à avoir des visions du monde assez diverses sur un lave-linge. Donc voilà, dans un mini-espace comme ça, se jouent des choses à la fois anecdotiques, dérisoires et essentielles. C'est ça qui me plaît.
Ça vous a amusé de justement parcourir tous ces commentaires, de voir les groupes aussi, comme vous venez de le décrire, se créer, ceux qui réussissent à réparer leur machine à laver, ceux qui restent en échec, et puis ceux qui sont complètement inspirés et qui, comme vous l'avez dit, se lancent presque dans de la poésie.
Mais oui, en fait, ça m'a non seulement amusé, ça m'a parce que c'est extrêmement drôle, hein, les commentaires qu'on peut lire, les plus absurdes et les plus absurdes volontairement ou involontairement sur Internet, c'est extrêmement drôle. Ça m'a beaucoup ému. En fait, quand on passe beaucoup de temps à lire des commentaires, on arrête assez vite de ricaner parce qu'on voit une humanité cherchant à comprendre, cherchant à témoigner, cherchant à exister, cherchant à prendre du recul. Voilà, j'ai finalement. Alors que ce qu'on connaît des commentaires est souvent assez odieux et on dit que ça fait perdre foi en l'humanité, si on regarde vraiment dans son ensemble le monde des commentaires, il y a de quoi être très ému et à s'amuser quand même aussi.
Puisqu'on fait évidemment des parallèles avec l'écriture et la littérature, vous comparez certains commentaires au cœur dans les pièces de théâtre antique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi est-ce qu'il y a un lien ?
Mais voilà, chez Sophocle et Eschyle, le cœur commente l'action, prend du recul et commente l'action. Il y a Agamemnon qui est en plein délire ou assassiné, et le cœur dit « Ah là là, c'est pas malheureux quand même, Agamemnon, ah là là, la cité, ça va mal ». Et j'ai le sentiment que les commentateurs sont le cœur dans les tragédies antiques, c'est-à-dire qu'ils prennent du recul et disent parfois des banalités, mais des banalités extrêmement vraies et importantes, ou des absurdités, mais qu'ils voilà, que c'est une manière quand même de participer à notre monde et pas uniquement de le subir.
Et dans ce cœur, il y a évidemment le chef, qu'on appelle le coryphée. Et là, c'est celui qui apporte le meilleur commentaire.
Ah ouais, ça
en
c'est le commentaire
sorte.
Que tout le monde va lire, qui va être sur Reddit, qui va être, lui, c'est la star.
Qui va être liké, ouais. Aimé, ouais. Donc mis aussi ouais. En avant. Donc il y a aussi une forme de hiérarchisation, en tout cas de, je sais pas, d'évaluation, de classement du commentaire par les autres.
Alors, par les autres,